Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews de la saison NFL sur Touchdown Actu, les previews 2021. Aujourd'hui, on va parler des Detroit Lions. À mes côtés, Lucas Vola, pardon, je n'arrive plus à articuler. Lucas Vola est là, bonjour Lucas.
Je suis bien là, bonjour tout le monde, changement de présentation, mais je suis bien là.
Voilà, Grégory Richard, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
On va pas cacher aux auditeurs qu'on en enregistre quand même quelques-unes à la suite, c'est pour ça que je commence à bafouiller, et c'est pour ça que je me suis dit je vais varier les plaisirs, je présentais tout le temps Grégory en premier tout à l'heure, là je vais faire un peu Lucas d'abord. Bon, messieurs, j'espère que ça va toujours bien pour vous, on va donc parler de cette équipe de Détroit. Ouais, j'espère que ça va bien parce qu'il faut avoir le moral pour parler des Detroit Lions en général. Les Lions, 5 victoires, 11 défaites la saison dernière, l'ère Jared Goff est lancée, et oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la tâche ne sera pas facilitée par l'effectif autour de lui. Jamal Williams a été signé, mais aussi Tyrell Williams, Breshad Perriman, Khalif Raymond, Josh Hill, Darren Fells, Charles Harris en défense, Michael Brokers, Alexandre Zalone, notamment. Penny Sewell a été drafté quand même. Lenny Levy, Onwu Zurike en défense, Alim McNeil en défense aussi. Ça a drafté un receveur, Amon-Ra St. Brown aussi. Et puis du côté des départs, on a laissé partir beaucoup de vétérans, Matthew Stafford, Adrian Peterson, Kerryon Johnson, Kenny Golladay, Marvin Jones, Danny Amendola, Jesse James, Joe Dahl et plein d'autres, Everson Griffin, Danny Shelton en défense, Jarrad Davis aussi, Reggie Ragland, Desmond Trufant, Justin Coleman et Duron Harmon ou Matt Prater. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Grégory, donc, c'est une équipe qui a quelques motifs d'espoir, mais aussi d'énormes trous. Est-ce que le nouveau coach Dan Campbell fait partie des motifs d'espoir? Parce qu'il faut commencer aussi par ça, il y a nouveau coach.
Motif d'espoir, je sais pas si je l'aurais forcément rentré dans cette catégorie là. Après, manifestement, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a eu un virage à 180 degrés entamé par le front office des Lions. On a pris que des mecs mous pendant des années et des années et des années. Je parle depuis le départ de Jim Schwartz notamment. Là, on a fait bon, allez, les gars. Alors, je suis critique parce que du coup, c'est souvent des extrêmes plutôt. C'est vrai que je prends cet exemple là. Patricia pouvait être un peu tendue de temps en temps également, mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc où niveau caractériel on a du mal à placer le curseur sur les head coach, c'est ou très en haut ou très en bas. Là, manifestement, on est quand même assez en haut là.
Attends,
là,
j'ai un trou sur le nom de ce merveilleux coach tellement transparent dont je me rappelle plus du nom, le mec qui était coaché par Peyton Manning quand il était chez les Colts.
Coaché par Peyton Manning. Jim Caldwell.
Jim Caldwell. Voilà, là c'est l'anti-Jim Caldwell total.
Ah là, oui. Totalement. Non, mais c'est pour ça. Non, mais du coup, je vais relativiser un petit peu parce que c'est vrai que Matt Patricia pouvait avoir son caractère. C'est d'ailleurs ce qui l'a desservi beaucoup, à mon sens, du côté du Michigan. Mais ouais, on aime bien, en tout cas, avoir des head coachs très marqués. Voilà. Il n'y a pas d'erreur sur la marchandise. Dès le premier entretien, on sait à qui on a affaire.
Alors moi, je le dis tout de suite, il me réjouit. Hein. Dan Campbell, ça va être une mine d'or pour le site. J'espère qu'il va rester en... Il me rappelle un peu Rex Ryan, tiens, d'une certaine époque. Puisqu'on rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas lu, il a déclaré qu'il voudrait que ses joueurs mordent les genoux adverses. Il a expliqué, alors apparemment, il a un régime assez particulier parce qu'il boit deux immenses cafés bourrés d'espresso tous les matins, il l'a dit en interview. Et puis surtout, il se réjouit des bagarres. Enfin, il est en mode alpha male total, il se tape sur la poitrine. Enfin, c'est la folie. Il fait les pompes et tout avec ses joueurs. Enfin, c'est vraiment, on est dans du coach
c'est
dynamique.
De la camaraderie.
Voilà, on est dans du coach dynamique. Je vais vous le dire, on plaisantait avant l'antenne. J'ai demandé à Grégory s'il aimait bien Dan Campbell. Il m'a dit que oui. Je lui ai dit que sinon, de toute façon, Dan Campbell viendrait lui casser la gueule parce que je pense qu'il est prêt à ça, quoi. Dan Campbell, il rigole pas. Je pense qu'en conférence de presse, ça va filer droit. Les journalistes, ils vont être contents d'être en visio cette année parce que ça.
Non, après, ça a souvent été un coach souvent vanté. Hein. Ça a longtemps été un assistant de Sean Payton. Hein. Je pense pas que Payton s'entoure de n'importe qui, surtout un coach qui a une mentalité offensive de base. Il a eu un très court passage à Miami, je crois que c'était après le départ de Tony Sparano, je crois, à l'époque, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a eu une courte période sur une fin d'année où ça s'est pas trop mal goupillé. Après, ça, c'est pas forcément significatif de grand chose, mais on a vu qu'il était capable quand même d'insuffler quelque chose. Après, c'est vrai que du côté de cette équipe de Détroit, que ce soit offensivement et défensivement, il y a eu un très large chantier qui va peut-être prendre plus qu'une année, en tout cas, à évaluer.
Alors, avant de passer dans les détails, juste un petit mot, parce qu'on a tous les deux donné notre avis, ce serait dommage que Lucas ne le donne pas. Jugeons les caractères personnels. Dan Campbell, toi, tu l'aimes bien ou...
Ouais, je vous écoutais, bon, messieurs, je vous écoutais, j'étais diverti. Je l'aime bien, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est un caractériel, ça a l'air d'être un caractériel. Déjà, il faudrait pas que ça soit un rôle qui se donne, et plutôt que ça soit vraiment lui, j'ai pas l'impression. Mais c'est surtout le genre de coach, quand tout se passe bien, c'est le genre de comportement qui amène l'équipe plus haut, mais quand ça se passe mal, les joueurs ont tendance à être agacés ou ont tendance à plus trop écouter ou ont tendance à croire ou à penser que c'est du cinéma et ça entraîne des spirales négatives. Comme le disait Greg, j'ai peur que ça se passe pas forcément très bien en termes de résultats pour les Lions cette saison. Et du coup, c'est un comportement. Voyons voir s'il le change au cours de la saison ou s'il garde le même. Et si surtout, s'il garde le même et que les résultats vont pas forcément dans son sens, est-ce que ça va pas accélérer justement une certaine cassure ou une certaine mauvaise ambiance dans l'équipe?
Ça rappelle un peu le côté cool de Pete Carroll, d'ailleurs, qui avait lassé certains vétérans au bout d'un moment. Il faut peut-être du renouvellement. Bon, en tout cas, là, on est dans du très subjectif. On va passer un petit peu au dur. Greg, il y a quand même, dans les motifs d'espoir, une très belle ligne offensive.
Oui, renforcée en plus par l'arrivée de Penei Sewell, donc le tackle qui, a priori, devrait être centré dans un premier temps. Hein. Je ne veux pas m'avancer encore une fois. On n'a pas encore vu la pré-saison à l'heure où on se parle. Mais voilà, peut-être plus en garde dans sa première année, mais en tout cas, Penei Sewell qui vient renforcer.
Ou à droite.
C'est-à-dire à droite.
Il serait plutôt sur un poste de tackle droit, non ?
Il sera en concurrence avec Tyler Crosby, oui, mais bon, on va voir. On va voir encore une fois, je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas, il fera le plus grand bien, je pense, à une ligne qui était déjà en très nette progression, je trouve, la saison passée, avec notamment les développements de joueurs comme Frank Ragnow, comme Tyler Decker, etc. Donc, c'est sûr que cette O-line, très clairement, c'est difficile de la mettre comme un handicap dans cette escouade. Moi, j'ai même avancé un peu offensivement dans ce qui pourrait permettre aux Lions de gagner. J'aime bien le backfield offensif. Et ce duo DeAndre Swift, Jamal Williams, ça peut, je pense, en plus, chaperonné par Anthony Lynn. Alors, on peut être très critique sur Lynn, ce qu'il a pu montrer notamment chez les Chargers. Ça reste un coach qui, je pense, va vraiment ancrer pas mal de choses sur son jeu au sol. Et avec un tel duo complémentaire, un joueur un peu plus explosif et je vais caricaturer un peu William sur le profil un peu plus physique, mais on a vu qu'il était excellent en sortie de backfield également. Donc voilà, je trouve que ça peut vraiment être un one-two punch très intéressant sur le jeu au sol, justement pour mettre un peu moins de pression sur un domaine aérien qui m'inquiéterait un peu plus.
Tout pareil, Lucas, le jeu au sol, il est plutôt prometteur. Swift à 4,6 yards par course l'an dernier, Jamal Williams en relais, c'est du costaud.
Ouais, c'est du costaud. Alors, du coup, vu que tu me lances sur le jeu au sol, je vais le dire que c'est mon facteur X. Il y a un petit spoiler, mais c'était le facteur X parce que je suis totalement d'accord avec Greg. Il y a deux joueurs qui sur le papier paraissent très complémentaires. Swift, il fait une super saison rookie l'année dernière. En plus, il y a Anthony Lynn qui a cet esprit qui est basé plutôt sur la course. Il y a une très bonne ligne offensive qui peut permettre d'ouvrir des brèches. Je l'ai mis dans le facteur X uniquement parce qu'en fait, la course à Détroit, c'est compliqué historiquement. J'ai l'impression depuis quelques années, peut-être depuis le départ d'Adrian Peterson. Et donc, du coup,
De Barry Sanders, tu veux dire.
Ouais, pardon, de Barry Sanders, ouais. Mais non, mais c'est surtout que voilà, ça fait quelques années que c'est très compliqué. Ils ont eu pendant longtemps pas de running back qui dépassait les milliards, je crois.
Enfin, même les 100 yards par match.
Ouais, ou
Oui,
même les 100 yards par
c'est.
match. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que j'ai mis en facteur X. Sur le papier, ça, c'est très excitant. Maintenant, à voir si ça fonctionne, mais c'est vrai que ça peut être la force de cette attaque.
Je réalise que les Lions ont un jeu au sol pile au moment où Matt Stafford part, de la même manière que les Colts ont eu une ligne quand Andrew Luck est parti, quoi. Il y a un côté un peu triste ironie. Est-ce qu'il y a d'autres points rassurants quand même dans cet effectif, Greg? Parce que bon, un jeu au sol, c'est bien, hein, en NFL actuellement, c'est quand même pas tout à fait l'essentiel, l'essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres motifs d'espoir?
C'est plus compliqué parce qu'encore une fois, il y a pas mal de retouches qui ont été apportées. Il y a un système défensif notamment qui a été modifié. On a vu, alors pour poursuivre sur la lignée Dan Campbell, qui a eu beaucoup plus de physique, notamment insufflé sur le premier rideau. On devrait passer sur une 34 un peu plus massive du côté de Détroit, même si voilà, il y a beaucoup plus de défense, on va dire, à base multiple ces dernières années, de par ce que peuvent proposer les joueurs. Mais c'est vrai qu'on est parti pour avoir un peu plus un front 3 du côté de Détroit. Il y a eu l'arrivée de Michael Brockers dans des circonstances un peu particulières. On sait qu'il avait été très critique par rapport à Détroit il y a quelques années. Le retour de bâton avec donc son trade du côté des Lions. Il y a quelques joueurs d'envergure. Tu parlais de Nwosurike, Ali McNeil également, le nose tackle, qui peut apporter quelque chose. Dashaun Hand n'a pas forcément démérité ces dernières années, même si je trouve que il était un petit peu perdu justement dans son meilleur positionnement sur la D-line pour pleinement performer. Un John Penicini qui va être pleinement a priori nose tackle a été excellent lors de sa saison rookie. Donc là aussi, pour rejoindre un petit peu ce que disait Lucas précédemment, voilà, le fait d'être précieux dans les tranchées, je pense qu'il y a moyen que, au-delà de l'attaque, la défense également soit peut-être intimidante au niveau de la ligne et libère des espaces, notamment à un pass rush qu'on espère revanchard, à commencer par Trey Flowers, qui a été quand même une déception assez constante sous Matt Patricia, mais qui peut proposer beaucoup plus que ce qu'on en a vu pour l'instant depuis son arrivée chez les Lions.
C'est là quand même qu'on voit que Greg il est très fort parce que il décrivait les Chiefs ou les 49ers. Il a quand même réussi à sortir dans les fonds de tiroir des bons joueurs et des bonnes choses aux Lions, alors qu'on parle des Detroit Lions quand même. C'est là qu'on voit que ce mec-là il est très fort.
Non, mais c'est vrai que en défense, bon, il y a tu le disais, Trey Flowers a déçu. Je suis même pas sûr qu'un alignement à 3 devant ce soit vraiment bénéfique pour lui. Je sais pas ce que t'en penses, Greg, toi
Michael
qui es
Brockers?
plus. Non, Trey Flowers.
Ah non, non, mais il n'est pas dans le. Non, lui, pour le coup, il serait outside linebacker, a priori.
Ah, il serait sur
Il serait
linebacker,
outside
ok.
linebacker, alors ça tournerait avec les frères Okwara
Ah oui,
ou
autant
genre
pour
de
moi. C'est parce
Detroit.
que la depth chart est toujours en alignement à 4,
Non, non,
donc on n'est pas
justement,
prêté
c'est
sur
moi,
la
c'est
ligne.
peut-être moi
Ouais.
aussi qui me suis mal exprimé, mais oui, c'est justement le travail physique de la ligne qui pourrait justement libérer
D'accord,
un peu
ouais.
plus de brèches et permettre à un Flower d'être plus efficace que ce qu'il pouvait être jusque-là.
Non, non, c'est sûr. Mais du coup, oui, il y a des motifs d'espoir là-dessus. Après, ça reste quand même très moyen. Jamie Collins a 32 ans. Et puis, il y a des inconnus sur le poste de safety. Okuda n'a pas fait une
Ah,
bonne
ça.
première saison. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de motifs d'inquiétude pour. C'est l'équipe qui prenait le plus de points l'an dernier, hein, 32 points, 32,4 points par match l'an dernier. Donc, je vois pas une progression notable quand même avec un Brockers, même qui est aussi, lui, a passé 30 ans, il a ses meilleures années derrière lui. Pour moi, ça va être un peu du bricolage en défense et ça me fait un
Si
peu
on
peur.
m'avait dit que ce serait toi, Alain, qui décrirait les joueurs qui ont passé la trentaine, j'aurais pas cru.
Oui, bah oui, mais franchement, ça ressemble un peu à du bricolage, c'est-à-dire que il pourrait se passer des bonnes choses. Peut-être que le coordinateur Aaron Glenn va réussir à faire des choses avec ça, mais. Je suis très dubitatif et pour moi, pour l'instant, ça reste en plus dans une division où il y a quand même des gros receveurs du côté de Minnesota avec Justin Jefferson qui a explosé, avec Aaron Rodgers qui est plus à présenter évidemment. bon, bah voilà, ils vont être en difficulté. Donc pour moi, ils risquent quand même de prendre le bouillon en défense. Et puis après, en attaque, on a parlé beaucoup du jeu au sol, mais c'est parce que il y a des choses moins positives à dire sur le jeu aérien. Lucas, je sens que tu veux en parler.
Je vais en parler, je ne sais pas si je vais en parler, mais clairement, moi, je me suis noté dans les facteurs qui pourraient faire perdre cette équipe. Le jeu aérien des deux côtés, tu as beaucoup développé sur le jeu aérien et la défense, mais en attaque, ce n'est pas beaucoup mieux. Ils ont perdu leurs deux receveurs, Golladay et Marvin Jones. Ils les ont remplacés par Tyrell Williams et Brashad Perryman. Ça fait pas rêver. Jared Goff, on sait que ce n'est pas forcément le genre de quarterback qui va rendre un receveur bon, qui va le rendre très bon, ou moyen, qui va le rendre bon. Sans lui manquer de respect. Donc le jeu aérien, c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup du jeu au sol, c'est que le jeu aérien au Detroit Lions l'année prochaine, il semble compliqué.
Donc tu n'as pas l'air de croire en Jared Goff en tant que franchise quarterback, hein, si je comprends bien.
Ouais, je pense que vous l'avez compris.
Grégory, tu n'as pas l'air de trop croire en Jared Goff non plus.
Alors, je vais redire ce que je dis assez souvent. Je pense que Jared Goff vaut mieux que ce qu'on en dit. Mais là, en l'occurrence, c'est sûr que c'est forcément un joueur qui sera surveillé de près parce que, en effet, il sera pas dans les mêmes conditions loin de Sean McVay. Et là, en plus, très clairement, de par ce qu'a dit Lucas, je vais pas répéter bêtement, mais on l'aide quand même pas avec les cibles à disposition. Moi, je veux bien critiquer Jared Goff s'il est critiquable. Mais là, en l'occurrence, même Matthew Stafford avait des meilleurs cibles à Détroit, Calvin Johnson. Donc, ça en dit long à un moment donné sur ce qu'il y a actuellement dans le groupe des Lions. Faut respirer beaucoup du rookie Amon-Ra St. Brown, qui a été drafté un peu plus bas que l'endroit où il était attendu. Mais ça fait très, très mince quand même pour espérer faire de cette attaque aérienne, en effet, quelque chose de convaincant, surtout quand ton quarterback arrive avec une mini-pression quand même.
Non, mais pour faire la synthèse de ça, enfin, moi, je pense que Goff est un joueur qui peut jouer à un niveau correct quand il est bien entouré. Là, il est très, très mal entouré. Donc,
C'est ça. Moi, je pense qu'il peut être moyen faute de mieux. Très clairement. Il a DJ Hockenson, en effet, qui, je pense, peut progresser parce que pour le coup, je pense que ce sera l'un principal menacé.
Oui, c'est sa meilleure cible.
De cette équipe de Détroit, très clairement, sur le papier, en tout cas. Mais c'est clair que ça fait très, très mince. Et en plus, pire que ça, c'est que je trouve que ça risque de se faire au détriment du backfield offensif que je vantais il y a quelques secondes. Ça peut en effet mettre encore plus de pression sur un jeu au sol qui aurait pu être séduisant et qui va se retrouver en effet facilement bloquable, entre guillemets, parce que dans les airs, on n'arrivera pas à produire suffisamment.
Factor X, Grégory.
Forcément, le jeu, l'attaque aérienne, je l'aurais mis dedans. Après, tu parlais notamment du backfield défensif. Je suis très inquiet pour le poste de cornerback. Alors, inquiet, avec des guillemets quand même. On attend de voir le fameux potentiel de Jeff Okuda, en tout cas, ce qui en avait fait un troisième choix de draft. Quinton Dunbar, on sait que ça reste un joueur relativement instable ou inconstant en fonction des prestations. Et tu as tout dit tout à l'heure, à Minnesota où l'attaque aérienne se développe, à Green Bay où l'attaque aérienne n'est plus à présenter, à Chicago où va y avoir l'arrivée notamment de Justin Fields et Allen Robinson, qui, dernière nouvelle, est toujours là, en tout cas quand on enregistre cette émission. Ça fait quand même beaucoup de paramètres où vaut mieux quand même que ton backfield défensif ou ta défense contre la passe soit pleinement performante. Donc ça, pour le coup, ce sera quelque chose à surveiller. Après, la défense en règle générale, pour le coup, parce que je l'ai dit, il y a quand même beaucoup de refontes et beaucoup de choses qui font que cette défense, si elle trouve pas la bonne carburation, ça peut être très compliqué tout au long de la campagne.
Même chose pour moi, hein. J'avais Okuda aussi, qui pourrait quand même pas mal changer les choses s'il se montrait au niveau espéré avant sa draft. Lucas, t'avais qui en Factor X ?
Moi, j'en ai parlé, c'était le jeu au sol, j'ai développé tout à l'heure. Je pense que sur le papier, ça peut être très bon. Maintenant, reste à prouver. Et puis, Greg en a parlé il y a quelques instants, mais TJ Hockenson, c'est peut-être le seul rayon de soleil dans le jeu aérien. Il faut vraiment qu'il devienne le tight end dominant qu'on pourrait attendre de lui pour que cette attaque soit, on va dire, ce mélange entre le sol et les airs. Voilà, ça peut être le facteur X aérien. Ouais.
Le calendrier, ça commence avec les 49ers, ensuite Green Bay en déplacement, Baltimore, Chicago à l'extérieur, Minnesota à l'extérieur, Cincinnati, les Rams à l'extérieur, Philadelphie, repos en semaine 9, les Steelers et les Browns à l'extérieur, Chicago, Minnesota, Denver à l'extérieur, Arizona, les Falcons et les Seahawks à l'extérieur et Green Bay pour finir. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont l'air vraiment gagnables pour cette équipe. Chicago éventuellement, selon l'état du quarterback d'en face, Cincinnati éventuellement, Denver, Atlanta. Moi, je pense que ça peut être, en tout cas dans la course pour le premier choix de la draft.
Ouais, moi, je sais pas pourquoi. J'étais en train de regarder ma feuille. Je me suis noté 7-10. Je me suis empressé de changer ça après notre discussion.
Ah
je
ouais.
sais pas pourquoi j'avais noté ça. Non, mais voilà, je vous le dis. Maintenant, allez, si je me lance, en effet, ça peut être pas loin d'un 13-14, du coup. D'un 3-14, pardon. Si mes calculs sont bons, voilà, je dirais 3-14. Ouais.
J'ai 3 aussi, ouais. Lucas, il a cru que je plaisantais pas quand j'ai dit que Dan Campbell venait casser la gueule des journalistes. Donc, il a mis 7. Non, 7, bonne première saison.
J'irais difficilement au-dessus de 4-13 pour une première année qui, pour moi, s'annonce vraiment de reconstruction.
Ouais, ça me. Encore une fois, moi, je vois vraiment une des potentiellement pires équipes de la ligue. Et je dis ça parce que c'est vraiment le genre de choses qui te revient au visage en général 6 mois après, tu sais, quand ils ont gagné 10 matchs. Donc probablement une des pires. Donc, on est à 3 ou 4, quoi. C'est comme ça que se termine la preview des Lions. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee. Vous retrouvez les previews en version écrite sur tdactu.com, les réseaux sociaux @tdactu sur Twitter et Facebook, @touchdownactu en entier sur Instagram et le site touchdownactu.com. Donc merci Grégory et Richard, merci Lucas Vola, on se retrouve demain pour une nouvelle preview.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.